Orient Hebdo, Éric Bataillon.
La boxeuse iranienne Sadaf Khadem est réfugiée en France depuis son premier combat international disputé et gagné en 2019 à Royan, sur la côte atlantique. Depuis, elle a disputé 18 combats, en a gagné 14 pour un nul et 3 défaites seulement. Entraînée à son arrivée par l'ancien champion de France et du monde Maher Monchipour, elle continue sa carrière de boxeuse de haut niveau avec son coach Michael Veuss du Rock Box Club de Royan, tout en poursuivant des études universitaires et en enchaînant des petits boulots. Pour Orient Hebdo, elle revient sur la situation sociale dans son pays natal où vit encore sa famille, mais où elle risque la prison si elle décide d'y retourner. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Sadaf Khadem.
Bonjour Éric Bataillon, vous allez bien ?
Ça va, je vous remercie. Alors la contestation en Iran ne faiblit pas après la mort de Mahsa Amini, morte voici 15 jours après avoir été frappée par la police des mœurs. Pourquoi êtes-vous révoltée, Sadaf Khadem ?
Moi, j'étais sensible par rapport à ce qui se passait. Parce que morte une fille de 22 ans à cause d'un marteau de tissu sur la tête, ce n'est pas acceptable. On est en 2022 et pour moi, je suis sentie par les droits de l'humanité. C'était la raison pour laquelle je me permets de porter parole. Parce que maintenant, j'habite dans un pays libre et je peux être la voix des autres. C'était une responsabilité pour moi. Après, cette jeune fille, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté en Iran. Nombre des gens qui ont mort chaque jour a augmenté. Et pour moi, ce n'est pas acceptable en 2022. Moi, je passe pour droit d'humanité.
Avez-vous, vous aussi, Sadaf, été confronté à la police des mœurs lorsque vous viviez en Iran?
Oui, 2-3 fois, je suis arrêté par la police des mœurs, parce que mal habillé par rapport à leur code vestimentaire. Donc, je me suis arrêté par la police des mœurs, je suis allée en gendarmerie, même j'ai signé un papier que c'est la dernière fois que je m'habille. Mal habillé là-bas, c'est être femme, ce n'est pas quelque chose de sexy, ou non, c'est juste en Iran, si vous portez un manteau très court, ou si vous mal cachez vos cheveux pour eux, pour l'Islamic Republic, c'est un risque.
Est-ce cela qui vous a poussé à vous installer en France?
Non, pas du tout. Je sais qu'en Iran, dans les sociétés, on cache notre personnalité. On ne peut pas porter n'importe quoi. Il y a des règles. Et je l'ai accepté parce que j'ai vécu là-bas. Pour moi, ça ne me dérange pas. Parce que dans ma famille, j'ai grandi dans une famille aisée et libre. Et ma mère toujours m'a dit, c'est ta société, ils veulent ça. Il faut que tu respectes parce que tu n'auras pas de problème. Mais chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Moi, je reste en France pour avoir la vie plus libre pour continuer ma carrière sportive. Parce que par rapport au niveau de vie matériel, j'étais mieux en Iran parce qu'ici, je n'ai pas décidé de rester. Parce que je suis venue pour faire un combat et retourner en Iran. Donc, j'avais un problème par rapport aux médias. J'étais obligée de rester en France un an. C'était très, très mal passé parce que je ne peux pas parler français. Et j'ai fait le travail que j'ai jamais fait en Iran. J'étais seule, sans famille. Mais après un an, c'était moi qui ai décidé de rester en France pour avancer dans ma vie plus libre, plus tranquille, avec plus confort.
Est-ce que vous avez encore de la famille en Iran?
Oui, mes deux sœurs et mon père.
Vous n'avez pas peur pour eux si vous exprimez votre désaccord avec le régime?
Non, parce que moi, je suis mature, ils ont leur vie. Et plus que 3 ans, je suis restée en silence et je n'ai rien dit pour protéger ma famille. Maintenant, ma famille, ils ont leur vie. Même si maintenant j'avance, c'est plutôt pour protéger pas seulement ma famille, tous les jours en Iran. Parce que si aujourd'hui je ne porte pas parole, j'en suis sûre que demain, je regretterai. Parce que si maintenant je reste en silence, c'est-à-dire que j'accepte le dictateur. J'ai accepté tout. Ok, je ne peux pas faire la boxe. Ok, je quitte l'Iran. Je ne peux pas vivre libre. Ok, je quitte l'Iran. Mais tuer une fille, c'est pas acceptable. Tuer une fille ou garçon, c'est pas la question de sexe. Tuer des gens pour rien. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je battre pour droit. Les gens, ils veulent vivre. Et c'est tout, comme les autres personnes. Pourquoi moi, dans un autre pays, j'habille comme je veux, mais l'autre personne, en 2022, quand elle rentre en roue, elle ne sent pas sécurité, c'est pas normal. Je parle pour ça. À mon avis, malheureusement, le gouvernement d'Iran, peut-être, je suis pas très fan de religion. Je suis croyante, mais mon croyance, c'est pour moi. Au nom de religion, ils font n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord, pas du tout, avec les décisions du gouvernement. Moi, je ne vais pas. Je suis combattante.
Femme, vie, liberté, ce sont les mots que l'on entend en perçant évidemment dans les manifestations contre le régime, des manifestations dans lesquelles il y a des hommes et des femmes, surtout des jeunes. Ce ras-le-bol peut-il déboucher pour vous sur une nouvelle révolution ou au contraire, peut-il dégénérer ?
Révolution sans stratégie, sans diplomatie, ça ne change rien. Il y a 40 ans que les gens en Iran, ils ont révolté pour avoir une vie avec plus de démocratie et ils ne veulent pas Shah d'Iran. Ils ont révolté pour avoir un pays avec république, avec démocratie, mais ce n'était pas du tout ça. À mon avis, révolution, manifestation, sans trouver solution pour gérer un pays, ça ne change rien. Juste, on augmente le nombre de personnes qui meurent. Il faut trouver une solution.
Sadaf Radem, dans un entretien avec le journal L'Équipe la semaine dernière, vous dites qu'il n'y a pas que les manifestations, il y a aussi d'autres moyens de se battre. Lesquels, selon vous ?
Moi, je disais, il faut faire une révolution numérique, parce que maintenant, les réseaux sociaux, Internet, qui a pouvoir, qui fait les communications entre chaque pays plus facile, il faut faire une révolution numérique. Et après, il faut trouver une équipe qui peut gérer l'Iran, qui a une esprit très ouvert, qui a déjà vécu dans les autres pays, qui sait c'est quoi le centre du monde. Écoutez, quand j'étais en Iran, je n'avais pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. Moi, je n'avais pas l'expérience. On a les Iraniens qui habitent dans d'autres pays, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme France. Ils ont la responsabilité très, très haute, comme ils ont député, ils ont travaillé dans le Parlement, ils travaillent dans les mairies. On a besoin pour gérer, pour changer l'Iran, on a besoin des gens qui ont l'expérience. Révolution, manifestation. Ok, demain, qui veut venir gérer l'Iran ? Culture, qui veut changer la culture l'Iran ? Qui veut changer les façons de penser ? C'est pas facile, ça prend le temps. Moi, j'en suis sûre que l'Iran a besoin minimum 10 ans pour changer tout, pour être un petit peu intègre avec les pays qu'ils ont déjà développés.
Sadaf Radem, les autorités iraniennes interdisent toujours aux femmes de boxer en compétition et de s'entraîner avec des hommes. Vous, en restant en France, vous pouvez pratiquer la boxe. Quels sont vos objectifs sportifs ?
Quand j'étais en Iran, j'étais coach. J'ai fait la boxe, seulement boxe, dans une situation confort, tranquille par rapport à l'entraînement, par rapport au niveau de vie. Mais ici, je passe beaucoup de temps pour apprendre la langue, pour avancer dans ma vie professionnelle aussi. Même maintenant, je travaille. Depuis 2019, je travaille. Comme tout le monde, je continue mes études parce que moi, j'ai habité en Iran. Je ne savais pas pourquoi. Entrer dans les sociétés, j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin d'être intègre avec la France. Donc j'ai passé beaucoup de temps en vrai pour ma vie professionnelle, pour avancer dans la vie ici. Et boxe, maintenant, c'est une partie de ma vie, c'est pas toute ma vie. Moi, j'ai objectif, mais j'ai besoin d'expérience et j'ai besoin encore de combat. Malheureusement, avec un an de Covid, j'étais en train de faire le maximum de combats possibles, mais avec un an de Covid, ça réduit. Et maintenant, moi, j'ai objecté dans ma tête. En plus, je n'ai pas reçu ma nationalité française. J'habite en France avec une titre de séjour jusqu'à 2024.
Justement, 2024, ce sont les Jeux Olympiques en France.
Exactement.
C'est votre objectif?
C'est mon objectif, mais il y a deux choses. Ma nationalité française et niveau. Quand j'aurai nationalité française, j'aurai droit de participer dans les championnats de pays, championnats de France. Dans le championnat de France, après, c'est mon travail que je monte mon niveau. Si je monte mon niveau, je peux entrer dans l'équipe de France. En plus, il faut qu'il m'accepte. Et l'équipe de France, ils ont le titre, ils ont déjà entraîné avec eux. Vous voyez, moi, je veux faire la chose olympique sur le drapeau de France, ni sur le drapeau de réfugiés. Iran, ça n'existe pas. C'est juste pour la France. Parce que ce pays, c'est ma deuxième maison. France m'a donné beaucoup de choses. Donc, il faut rembourser.
Merci, Sadaf Radem.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes iranienne d'origine, vous êtes réfugiée en France depuis 2019, que vous vivez à Royan, dans l'ouest de la France, et que vous vous entraînez pour la boxe à côté de votre travail et de vos études. Merci, Sadaf.
Je vous en prie.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی،
Baraye Azadi pour la liberté, une chanson écrite par Shervin Hadji Arapour et qui l'a conduit en prison. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem pour lire la presse de la semaine avec nos correspondants Alexandre Bouchanti. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Et Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Alexandre, la hausse des prix du pétrole fait la une de la plupart des journaux arabes.
Oui, et une hausse qui est due à la décision des pays de l'OPEP+, de baisser la production de 2 millions de barils jour. Alors, les journaux rappellent que le monde arabe, avec les pays du Golfe, l'Irak, la Libye et l'Algérie, est le plus grand producteur et exportateur pétrolier du globe. Une aubaine pour les grands producteurs, mais un fardeau pour les pays arabes non producteurs dont les économies sont déjà mal en point. Les journaux rappellent que, lors de la guerre arabo-israélienne d'octobre 1973, les pays pétroliers arabes avaient décrété un embargo sur les exportations pétrolières, ce qui avait fait passer le baril de 3 dollars à 15 dollars. La décision de l'OPEP+, a été très mal reçue, selon les journaux, par l'administration américaine. Les démocrates craignent qu'une hausse du pétrole ne leur fasse perdre les élections législatives du 8 novembre. Washington a donc accusé l'OPEP de fausser le marché et de favoriser la Russie, indiquent les journaux arabes qui ajoutent que les États-Unis oublient qu'ils vendent à prix d'or leur gaz aux Européens après les avoir poussés à ne plus acheter de gaz russe, faussant ainsi le marché.
Oui, OPEP+, signalons-le, ce sont 13 membres de l'OPEP auxquels se sont ajoutés 10 autres membres, dont la Russie. À la une de la presse israélienne, Michel Paul, l'accord sur les frontières maritimes entre Israël et le Liban, cet accord semble remis en question après les amendements proposés par Beyrouth et rejetés par Israël.
Feu rouge au Liban, titre un quotidien. Eric, pour le quotidien de droite Israël Hayom, la situation se résume en quelques mots. L'accord s'éloigne et la confrontation, elle, se rapproche. Et l'on trouve aussi dans le quotidien de gauche à Haaretz, cette fois une caricature très forte où l'on voit le chef de l'opposition Netanyahou aux côtés de Nasrallah, le leader du Hezbollah. Les deux hommes se frottent les mains face à un accord qui a du plomb dans l'aile. La guerre de l'eau, titre un autre éditorialiste, et un analyste tente, lui, de faire la part des choses. Il parle de la bataille des frontières maritimes d'une part et de la bataille des royalties de l'autre. Un commentateur met en avant ce qu'il intitule le test Karish, du nom de la plateforme gazière qui, selon Israël, devrait entrer en action prochainement. Et c'est là que l'on pourra voir si l'état d'alerte qui a été déclenché au sein de l'armée israélienne est bien réel, ou alors s'il s'agit de simples manœuvres menaçantes. Une tempête dans un verre d'eau, affirme encore un chroniqueur, avec ce jeu de mots inévitable, Eric, il y a de l'eau dans le gaz entre Israël et le Liban.
En effet, une polémique en Égypte, Alexandre, à propos de Gamal Moubarak, le fils de l'ancien président égyptien.
Oui, le fils Moubarak était en fait le dauphin de facto avant le soulèvement contre le président Hosni Moubarak en janvier 2011 et son désistement. Il a visité en grande pompe la tombe de son père à l'occasion de la fête nationale du 6 octobre, commémorant en Égypte la victoire contre Israël en 1973, une guerre pendant laquelle Hosni Moubarak était le commandant de l'armée de l'air qui a asséné les premiers coups à la ligne de défense israélienne sur le canal de Suez. Pour de nombreux commentateurs, cette visite à la tombe paternelle est une tentative de la part de Gamal Moubarak de revenir sous les feux des projecteurs.
Et donc une tentative à suivre. En bref, Michel, les autres titres qui font débat en Israël.
Après son malaise pendant le jeûne de Yom Kippour, Benjamin Netanyahou, en pleine récupération, remarquent les journaux, pour la première fois, l'ex-premier ministre remonte très nettement dans un sondage, Ma'ariv Jerusalem Post, qui prévoit qu'il sera en mesure de mettre sur pied une coalition au lendemain des élections du 1er novembre prochain. C'est le résultat notamment d'une forte poussée de l'extrême droite. En désespoir de cause, le parti Colombe Meretz propose de son côté, par la voix de sa présidente Zehava Galon, dans plusieurs interviews, de faire alliance avec les ultra-orthodoxes et aussi avec les partis arabes. Dans les médias aussi, la tragique histoire de Ahmad Hasham Hamdi Abu Marakia, un Palestinien de 25 ans qui a fui la Cisjordanie pour un refuge LGTB en Israël. Enlevé, son corps a été retrouvé décapité à Hébron et la police palestinienne a ouvert une enquête. Une affaire relayée par les médias sociaux palestiniens et israéliens. Et dans un tout autre registre, Israël et l'Australie se proposent de faire pousser des plantes sur la Lune. Et Eric, c'est pour bientôt. Objectif 2025.
2025, autrement dit, demain. Et l'image que vous avez retenue pour nous cette semaine, Michel?
Eh bien, c'est la photo d'Annie Ernaux. La plupart des articles ne sont pas particulièrement élogieux et mettent l'accent sur les positions anti-israéliennes de la prix Nobel de littérature française.
Annie Ernaux à relire donc dans le texte. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Gulchani. Demain, nous parlerons transition énergétique au Maghreb et au Moyen-Orient avec la géographe Nadia Benalouache. Elle intervenait sur ce thème la semaine dernière au Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges dans l'est de la France. À demain donc. À suivre le journal.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 می پریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه